Radio Prague, les informations. Bonjour, le gouvernement se penche sur le programme de convergence, élément indispensable en vue de l'adoption de l'euro. La Chambre des députés a adopté la petite réforme de la santé, puis des représentants de plus de 30 entreprises tchèques accompagneront le Premier ministre lors de sa première visite en Irak. Le gouvernement tchèque s'est penché ce mercredi sur la version actualisée du programme de convergence, document qui définit la stratégie budgétaire de l'État pour les prochaines années en vue de l'adoption de l'euro. Dans ce programme, le gouvernement s'engage à réduire le déficit public à 1,9% du PIB en 2014. Cette année, le déficit public devrait atteindre 4,2%. En 2012, cet indicateur pourrait être ramené à 3,5% du produit intérieur brut. Rappelons que les critères de Maastricht stipulent un déficit public inférieur à 3%. La Chambre des députés a approuvé en première lecture mardi soir l'augmentation du montant des frais d'hospitalisation proposés par le ministre de la Santé. Le montant du forfait journalier réclamé aux patients devrait donc passer des 60 couronnes actuelles, soit près de 2,50 € à 100 couronnes, un peu plus de 4 €. Cet amendement à la loi sur l'assurance maladie, parfois présenté comme une petite réforme de la santé, doit encore être débattu au sein de la commission parlementaire en charge de la santé et pourrait être adopté avant la fin du mois de juin. La loi en question, qui introduit également le système de soins alimentaires et supplémentaires, est fortement critiquée par l'opposition de gauche. Des chefs et des représentants de plus de 30 entreprises accompagneront le Premier ministre Petr Nečas lors de sa visite en Irak, programmée à la fin du mois de mai. Il s'agira de la première visite d'un chef de gouvernement tchèque en Irak. Cette visite n'a toutefois pas encore été annoncée officiellement. Des sociétés spécialisées dans les secteurs de l'énergie, de l'extraction et du traitement du pétrole, de l'aménagement des eaux, de la santé, de l'agriculture et de l'armement seront notamment représentées en Irak. L'information a été communiquée mercredi par le président de la Confédération de l'Industrie et des Transports de République tchèque. Dans un passé récent, 5 missions économiques tchèques se sont déjà rendues en Irak, 8 délégations irakiennes ayant également fait le chemin inverse. Un conseil tchéco-irakien du commerce a été créé dans ce cadre, ainsi qu'un conseil économique tchéco-kurde. En 2010, la République tchèque a exporté des marchandises en Irak pour un montant record de près de 110 millions d'euros. Près de 3 Tchèques sur 4 pensent que trop d'étrangers travaillent en République tchèque. Tel est le principal enseignement qui ressort du dernier sondage réalisé par l'agence STEM, dont les résultats ont été communiqués mercredi. 70% des personnes interrogées considèrent qu'employer des étrangers fait perdre du travail aux Tchèques. Inversement, 40% d'entre elles reconnaissent que certaines professions ne peuvent se passer des services des travailleurs étrangers. On passe au sport. La République tchèque affronte la Finlande ce mercredi soir à Bratislava, en Slovaquie, pour son troisième et dernier match de poule, comptant pour le premier tour du championnat du monde de hockey sur glace. Déjà vainqueur de la Lettonie puis du Danemark lors de leurs deux premiers matchs, les Tchèques, champions du monde en titre, ont déjà assuré leur qualification pour la phase de poule des huitièmes de finale. En tennis, Petra Kvitova a réalisé une belle performance au troisième tour de l'Open de Madrid, mercredi, en battant la numéro 3 mondiale, la Russe Vera Zvonareva, sèchement en 2-7, 6-1, 6-4. Il s'agit d'une petite revanche pour la Tchèque, qui avait été battue par la même Zvonareva en quart de finale de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, en janvier prochain. En quart de finale sur la terre battue espagnole, Petra Kvitova, tête de série numéro 16, sera opposée à la vainqueur du match entre la Russe Maria Sharapova et la Slovaque Dominika Cibulkova. Des records de froid ont été battus mercredi matin dans plusieurs régions du pays, notamment dans les monts Izerské Hory, en Bohême du Nord, à Izerka. Une température de moins 12 degrés a ainsi été enregistrée. Le mercure est descendu très bas également à Horská Kvilda, dans le massif de la Šumava, c'est en Bohême du Sud, avec moins 11 degrés, et même à Prague, à Rosigné, où se trouve l'aéroport, avec moins 2 degrés. Par ailleurs, 30 cm de neige sont tombés en altitude, notamment dans la partie nord du pays. Et puis toujours météo, après une journée de mercredi marquée par un temps variable, le soleil est de retour sur la majeure partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Claudiers. Quelques nuages resteront toutefois en Moravie, dans le sud-est du pays. Les températures sont stables et varient entre 9 et 14 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Tout de suite, retrouvez Václav Richter pour la suite de notre programme. faits et événements en République tchèque.
La police tchèque a arrêté plusieurs personnes soupçonnées du soutien au terrorisme. Le secrétaire d'État tunisien chargé du tourisme, Slim Shaker, était cette semaine en Tchéquie. Une occasion de lui poser quelques questions sur les relations entre Tunis et Prague. La rubrique « Chapitre de l'histoire » sera consacrée à la situation des Juifs tchèques pendant l'occupation. Tels sont les sujets dont nous allons vous entretenir dans la première partie de notre programme. Merci de rester avec nous. La police tchèque a démantelé début avril un groupe de personnes suspectées d'avoir soutenu des activités terroristes. L'information a été présentée à la presse ce mardi par les dirigeants de la police tchèque. L'affaire serait liée aux activités de l'organisation islamiste radicale Jamaat Shariat. Selon le directeur de la police tchèque, Petr Lessy, c'est la première fois que les policiers tchèques ont appliqué la législation sur le soutien au terrorisme. La procédure a été ouverte contre 8 ressortissants de Bulgarie, de Moldavie, du Daghestan russe et de Tchétchénie, dont 7 sont accusés de falsification de documents. 5 ressortissants moldaves et russes sont soupçonnés d'avoir agi consciemment pour permettre ou faciliter des attentats terroristes. 6 personnes ont été écrouées en République tchèque, 2 autres sont en liberté en Allemagne. Le chef de l'unité de lutte contre le crime organisé, Robert Schlachta, explique quelles ont été les activités de ce groupe.
Il s'est avéré que ce groupe devait assurer le soutien matériel, financier et les ressources humaines pour les opérations terroristes dans le nord du Caucase. Les membres du groupe sur le territoire de République tchèque assuraient de faux papiers, des moyens financiers, des explosifs et des armes pour les soi-disant nouveaux combattants.
Selon Robert Schlachta, la qualité des documents falsifiés était excellente et les faussaires étaient capables de créer de nouvelles identités complètes qui étaient indécelables lors des contrôles policiers de routine. Le produit de ces activités était envoyé au Daghestan où il était employé par le mouvement terroriste Jamaat Shariat. Et Robert Schlachta de constater que le groupe démantelé en République tchèque était très fermé et qu'il a été très difficile de le pénétrer. Le séjour de toutes les personnes écrouées en République tchèque était légal et dans le groupe il y avait plusieurs demandeurs d'asile. Une partie du groupe avait suivi un entraînement dans des camps afghans et pakistanais, mais la police tchèque ne dispose pas pour le moment de preuves que ces personnes aient participé à des opérations sanglantes des organisations caucasiennes en Russie. L'organisation islamiste anti-russe Jamaat Shariat a été fondée au tournant du siècle. La journaliste tchèque Petra Prochaskova, spécialiste de la situation dans le Caucase, évoque les racines et les objectifs de cette organisation. À l'époque, les Tchétchènes cherchaient à étendre leur zone d'activité au Daghestan, dit Petra Prochaskova, et ont contribué à la fondation de cette organisation qui s'appelait d'abord Genet ou Jamaat, ce qui signifie paradis. La première tâche des membres de cette organisation, et qu'ils remplissaient très consciencieusement, était exclusivement des attaques contre la police, les juges, les fonctionnaires, c'est-à-dire contre les éléments collaborant avec la Russie. Les agents de l'unité de lutte contre le crime organisé en République tchèque se sont lancés sur cette piste dès 2008. C'est à ce moment-là qu'ils ont reçu l'information sur la prolifération des personnes liées avec l'organisation Jamaat Shariat sur le territoire tchèque. Jamaat Shariat serait responsable de toute une série d'attaques terroristes, dont les attentats suicidaires dans le métro de Moscou en mars 2010, qui ont fait 40 victimes. Néanmoins, le directeur de la police tchèque, Petr Lessy, se veut rassurant.
En ce qui concerne une possibilité d'attentat terroriste sur le territoire tchèque, notre pays ne court pratiquement aucun risque.
Les activités antiterroristes tchèques sont organisées en coopération étroite avec la police allemande. Selon des sources allemandes, les radicaux islamistes auraient transféré une partie de leurs activités de Berlin à Prague. Le secrétaire d'État tunisien chargé du tourisme, Slim Shaker, était cette semaine à Prague. Il s'agissait de la première visite d'un membre du gouvernement de transition mis en place après la révolution du jasmin et chute du régime du président Ben Ali. l'occasion pour Alexis Rosenzweig de poser quelques questions à Slim Schacker sur la nouvelle relation entre Tunis et Prague depuis ces événements.
La République tchèque a une expérience récente du passage de la dictature à la démocratie. C'était il y a une vingtaine d'années. Est-ce que les Tchèques peuvent vous apporter quelque chose de cette expérience?
C'est absolument ce que j'ai dit tout à l'heure à mon homologue tchèque. Je lui ai dit, vous avez fait la révolution du velours en 1989. Nous avons fait la révolution du jasmin en 2011. Le chemin que vous avez parcouru en 20 ans en mettant en place des élections libres et démocratiques et transparentes, en mettant en place un parlement, en mettant en place une constitution, en mettant en place un système de gouvernance basé sur la démocratie, en mettant en place de nouvelles institutions et surtout un système économique performant, ben, nous avons commencé, nous, notre chemin. Vous avez 20 ans d'avance, donc le chemin que nous commençons à explorer aujourd'hui, vous l'avez exploré avec nous, avant nous, et donc certainement que nous aurons besoin de votre know-how, certainement que nous aurons besoin de vos success stories, certainement que nous aurons besoin de vos conseils. Je suis sûr que ces conseils seront précieux, et j'ai convenu donc avec mon homologue du tourisme et du développement régional de venir en Tunisie pour une visite officielle, et je lui ai suggéré de ramener avec lui des businessmen. Comme ça, c'est la meilleure façon de mettre en place des choses très rapidement, des businessmen tchèques avec des businessmen tunisiens. Je suis sûr que certains, mettez-les ensemble autour d'une table pour 10 minutes, ils vont faire des affaires et ils vont faire des projets en commun. Et à mon avis, c'est la meilleure façon de renforcer la coopération entre la République tchèque et la Tunisie.
Ce sera peut-être d'ailleurs l'un des objectifs du chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, qui se rend en Tunisie dès la fin de cette semaine.
Effectivement, il se rend en Tunisie ce vendredi, et le dossier du tourisme figure parmi les dossiers à l'ordre du jour. Et donc je pense que aujourd'hui nous assistons au premier pas d'une coopération qui, je l'espère, sera fructueuse pour les deux parties.
On parlait de comparaison entre révolution de velours tchécoslovaque et révolution de jasmin tunisienne. Il y a eu dans les médias des comparaisons un peu plus poussées, avec notamment l'immolation de ce jeune Tunisien qui a été comparé à l'immolation du jeune tchèque Jan Palach en 1969. Et certains Tunisiens ont dit « Nous avons maintenant notre Jan Palach, mais il nous manque notre Václav Havel ».
Oui, effectivement, il nous moque notre Václav Havel, et c'est pour ça que nous, gouvernement de transition, nous travaillons. Nous travaillons pour qu'il y ait le 24 juillet des élections transparentes, libres, démocratiques, et que pour qu'à l'issue de ces élections, qui j'espère seront très réussies, nous ayons nous aussi notre Václav Havel. Et un ministre étranger qui est venu me voir juste après la révolution, en descendant de l'avion, il m'a dit, écoutez, monsieur Schacker, j'ai vraiment eu un sentiment de fierté en venant en Tunisie, et le nom de la Tunisie sera gravé, sera inscrit dans les livres d'histoire. Je lui ai dit, monsieur le ministre, moi, mon objectif, c'est pas qu'il soit inscrit dans les livres d'histoire, et mon engagement, c'est pour qu'il soit gravé en lettres d'or dans les livres d'histoire.
Retrouvez l'intégralité de cet entretien avec le secrétaire d'État tunisien chargé du tourisme dans la rubrique économie-commerce. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Suite du programme avec un nouveau chapitre de l'histoire, et aujourd'hui la suite de l'entretien réalisé par David Allon avec le journaliste Stanislav Motl et l'historien Michal Frankl sur la situation des Juifs tchèques pendant l'occupation. Un sujet encore peu abordé.
Chapitre de l'histoire.
Bonjour Stanislav Motl. En 1938, prélude au génocide, des synagogues sont incendiées dans toute l'Allemagne. Cette nuit de cristal eut-elle des équivalents en Bohême, avant ou pendant la guerre?
Nejsou synagogy pálily samozřejmě taky, ale paradoxně, nebo několik vypálených synagog.
En Bohême-Moravie aussi, des synagogues brûlèrent. Mais ce sont des Tchèques qui commettent ces incendies. Je connais deux exemples en Bohême centrale où ce fut le cas. Principal responsable, l'organisation Vlajka, un groupe de fascistes tchèques dont certains étaient des héros de la Première Guerre mondiale. Ils avaient essayé de brûler des synagogues dès 1939. Ils tentaient dans ces cas de se faire passer pour des citoyens allemands. L'initiateur et le financier de ces attaques, Radoslav Čermák, a été exécuté en 1947.
Nějaký Jaroslav Čermák se jmenoval a byl popraven v roce 1947.
Existe-t-il un fort antisémitisme parmi la population tchèque?
Víte, já ne, já myslím, že ne, protože já ten svět znám docela dobře a hodně znám i ten východ, já tam hodně jezdím a točím.
Je ne pense pas que l'antisémitisme est une forte tradition en terre tchèque. Je connais bien l'est de l'Europe car j'y vais souvent et j'y tourne. L'antisémitisme était très fort dans des pays comme la Pologne, l'Ukraine, la Russie subcarpathique ou même la Slovaquie, avec aussi des aspects sociaux. Sous la Première République démocratique, il n'y avait pas de pogrom possible. Le dernier à Prague remonte à 1898 et vous connaissez la défense de Hitler, le Dreyfus tchèque par Masaryk. Les juifs tchécoslovaques étaient très bien assimilés. Les témoins juifs le disent encore aujourd'hui. Nous chantions l'hymne tchécoslovaque, nous nous sentions tchécoslovaques. Par ailleurs, une certaine partie d'entre eux n'avait pas conscience d'être juifs avant, bien sûr, l'arrivée des nazis.
Bonjour, Michael Frankel. Pensez-vous également que la tradition antisémite est faible en Bohème?
Já bych malinko nesouhlasil s tím, že v Čechách nebyla antisemitská tradice. Český antisemitismus.
Moi, je ne dirais pas que les terres tchèques n'ont pas de tradition antisémite. À la fin du 19e siècle, l'antisémitisme tchèque était très fort. On l'a vu dans l'affaire Hilsner ou avec le développement de l'antisémitisme dans la sphère politique. Et cet antisémitisme ne se réduit pas à un produit dérivé du conflit entre communautés tchèques et allemandes, comme cela a été trop souvent analysé. En effet, les Juifs parlaient allemand et envoyaient leurs enfants dans des écoles allemandes. Cet antisémitisme provient d'une transformation idéologique d'une partie des hommes politiques et des journalistes qui étaient revenus du libéralisme et allaient devenir antisocialistes. Dans ce sens, il est comparable aux antisémitismes allemands et français, ou presque.
Pourtant, la Première République tchécoslovaque est réputée pour son esprit de tolérance.
Za první republiky v meziválečném období ten antisemitismus minimálně.
Sous la Première République, l'antisémitisme s'est un peu relâché. À cela plusieurs raisons. Tout d'abord, les Tchécoslovaques étaient rangés dans le rang des vainqueurs à l'issue de la Première Guerre mondiale. Les dirigeants du pays voulaient se différencier des antisémites polonais qui organisaient des pogroms. Il y en avait aussi en Tchécoslovaquie, mais ils étaient moins spectaculaires. C'était une façon de dire, nous sommes les meilleurs élèves de la démocratie occidentale, nous sommes différents de nos voisins centre-européens.
Západní demokracii. My jsme jiní než, než naši sousedi ve střední Evropě.
Il existe en Israël un kibbutz Masaryk. En quoi le premier président tchécoslovaque représentait-il un symbole pour les juifs tchèques?
Každopádně ten,
la relative faiblesse de l'antisémitisme entre les deux guerres est sans doute due à l'influence de Masaryk. Non qu'il ait particulièrement lutté contre l'antisémitisme, mais il avait milité pour l'innocence d'Hilsner et l'antisémitisme devenait ainsi de facto une attaque contre sa personne et donc contre l'État. D'ailleurs, les antisémites tchèques sont d'abord contre l'État.
A je vidět, že ty skupiny, které jsou otevřeně antisemitské, to jsou lidé, kteří jsou proti státu.
Quelle est la situation des Juifs tchécoslovaques après la guerre?
Jaký podíl na antisemitismu měla česká tradice?
La part de la tradition nationale et de l'importation de l'étranger dans l'antisémitisme tchèque est une question compliquée. Et la société tchèque n'a jusqu'à aujourd'hui toujours pas ouvert le débat. Munich et l'occupation entraînent une montée du nationalisme et de l'antisémitisme dont on ressent les effets après-guerre. Le choix politique d'aller vers une société ethniquement homogène a joué un rôle. S'il restait, les Juifs devaient s'assimiler et il n'était pas question de tolérer une autre langue ou une quelconque marque de différence. Concernant la période de l'occupation, je pense que le nombre peu élevé de sauvetages de Juifs en Bohême s'explique par un faisceau de raisons. Cela va de l'indifférence à la peur en passant par la passivité et l'antisémitisme.
Stanislav Motel, vous mettez l'accent dans vos recherches sur ces Tchèques, souvent oubliés, qui sauvèrent des Juifs pendant la guerre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Il
existe ici une organisation appelée les enfants cachés. Ils ont sauvé plein d'enfants, on n'en parle jamais. Ils vivaient dans des conditions psychiques éprouvantes car ils avaient été séparés de leur famille et ils vivaient le plus souvent dans des caves. Il faut se rappeler que chez nous, cacher des juifs était passible de la peine de mort. Je ne connais pas beaucoup de Pragois qui aient sauvé des juifs, mais à la campagne, oui. Je connais par exemple un village en Bohême centrale qui a caché tout un groupe de juifs. Vous connaissez les mesures d'exclusion qui frappaient les juifs, interdiction de fréquenter parcs et cafés, etc. Eh bien, dans certains villages, on s'en fichait complètement. Les juifs étaient admis dans les auberges. Je trouve dommage qu'on n'en parle jamais de ces cas.
L'institution catholique a évolué dans les années 1930, incarnant de plus en plus en France et même en Allemagne dans certains cas, un pôle de résistance à l'antisémitisme. Est-ce que ce fut aussi le cas en Bohême-Moravie ?
Si vous regardez les camps de concentration et celui de Dachau par exemple, il y avait des dizaines d'ecclésiastiques catholiques tchèques qui furent internés. Mais il est vrai qu'à partir de 1938, certains poètes catholiques écrivent avec virulence contre les juifs. Citons Jakub Demla ou encore Rentsch. C'était là des antisémites convaincus. Pour autant, on ne peut pas dire que l'Église catholique dans son ensemble a collaboré en Bohême-Moravie. Dans le monastère de Jasové, à Cetin, des sœurs de l'ordre ont caché jusqu'à la fin de la guerre des enfants juifs et 6 enfants tziganes.
Sont-ils aujourd'hui à Yad Vashem ?
Non, pas du tout. Je connais beaucoup de Tchèques qui ont sauvé des Juifs, mais ne se sont jamais déclarés. Ils ne sont pas à Yad Vashem et ne sont pas non plus mentionnés comme justes parmi les nations. Sous le communisme, il est évident qu'une telle démarche était impossible, mais même après et jusqu'à aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas comment se faire reconnaître comme justes. Par exemple, un acteur connu, Karol Eger, a dû prouver qu'il avait participé à des sauvetages, en l'occurrence à 2 reprises, dans le ghetto de Térézin. L'absence de témoins représente la principale difficulté. Aujourd'hui encore, je rencontre des gens dans ces villages qui ont aidé les Juifs. Je leur demande pourquoi n'écrivez-vous pas à Yad Vashem ? Ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient le faire.
Eh bien encore merci à vous deux, Stanislav Motel et Michal Frankel.
C'était donc notre rubrique chapitre de l'histoire, préparée pour vous par David Allon. Et c'est la fin de la première partie de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.